99.5.
Qui sont les journalistes?
Radio Campus.
Voilà, dans les grands médias, il y a très peu de gens qui viennent des quartiers ou qui y habitent, quoi.
Radio Campus Tour.com.
Avec ça, ça crée de la distance, c'est sûr.
Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on va manger ce soir?
Boisson au citron, l'entrée Boki végétarien, moumou chuké, oignon et sauce tomate, citron confit à la provençale, plat, saison, légumes. Au curry, lait de curry, aux légumes de saison, aux extraits, la mousse au chocolat sur le lit de pucelou. Oh, j'aime tout, moi.
Vous aimez tout?
Ouais.
Pourquoi on est au quartier ici ce soir?
Il y en a qui ont fait la cuisine. En cuisine, on l'a préparé le citron dans un gros bidon avec d'amandes, de l'eau et on mettait des glaçons dedans pour rafraîchir.
Ça, c'est la boisson au citron.
Ouais.
Oui. Donc vous avez participé avec.
Oui.
Citronnade, petit végétarien, tips de mousse, jaune d'oignon et sauce tomate à la provençale. Plat, légumes de saison, curry et lait de coco, curry aux légumes de saison au ritaï, mousse au chocolat sur lit de spéculoos.
Moi c'est Maël et à côté de moi c'est Mathis. Et du coup, là on a préparé pour faire des beaux kits. Le principe, c'est que vous mettiez un petit peu de tout ce qu'on va mettre sur la table dans votre assiette. Et après, vous pouvez tremper comme des petits... ou des petites tartines. Vous verrez, il y a des pans où vous pourrez poser toutes les choses que vous voulez dessus. C'est une alternative au beau kit. Le beau kit de base, si j'ai bien compris, c'est plutôt sous forme de sandwich. Et là, on débute. Donc, ça va être sous forme de tapas. Voilà.
Donc là, il y a le beau kit qui arrive sur table. Alors toi, qu'est-ce que tu as fait dans tout ça? Qu'est-ce que tu as fait à la cuisine?
Alors, en cuisine, en vrai, ça dépend. On peut faire un peu de... On peut un peu toucher à tout, c'est ça qui est cool. Il y a beaucoup de personnes qui sont occupées de la pâte des tapas. C'était, je pense, la partie la plus compliquée du repas de ce soir. Tout ce qui était dessert... Enfin, quasiment tout le dessert, ça avait été fait en amont par notre chef, Chris. C'est pas vraiment le chef, mais c'est un peu lui qui supervise un peu toutes les recettes. Et le plat, un peu de résistance, attends que je m'en souvienne.
Il y avait du curry, je crois.
Ah oui, c'était du riz avec des légumes, je sais plus trop quoi. Mais je me suis pas vraiment occupée de ça. Je me suis plutôt occupée du coup d'une partie du dessert et de la pâte. Voilà. Et c'était très fatigant.
Et qu'est-ce qu'elle avait d'extraordinaire, cette pâte, alors que tu nous dis que c'était compliqué et tout?
En fait, elle avait pas vraiment grand-chose d'extraordinaire, c'est juste qu'il y avait beaucoup de pâte à pétrir. Et puis elle était un peu sèche, du coup, il fallait la reprendre et mettre de l'huile avec. Mais ouais, non, quand je vois le résultat, je me dis que c'était cool et qu'on a fait du bon travail.
Et ben merci à toi, et puis ben, bon appétit, alors.
Ben merci, et bon appétit à toi aussi.
Quel est ce doux bruit, Anne-Laure?
Alors ça, c'est le doux bruit de la citronnade qu'on a préparée, qui sera la boisson du repas, qui accompagnera tous nos plats aujourd'hui. On a mis dedans du citron, de la menthe du jardin, un petit peu de gingembre et du sucre. Et quelques glaçons pour rafraîchir, parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. On s'est dit qu'une boisson fraîche et désaltérante, c'était tout à fait approprié pour ce repas.
Et donc là, c'est un festin dont on vient de nous présenter le menu. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu veux nous expliquer pourquoi on est au quartier?
Alors, pourquoi on est au quartier? En fait, nous, on est l'association La Cloche, qui est une association qui lutte contre l'exclusion des personnes en situation de grande précarité Et l'objectif de l'asso, c'est de recréer du lien social entre les habitants avec domicile et sans domicile. Et dans... Au revoir. Dans le quartier, on a, dans la cloche, en fait, on a des programmes. Et on a un programme qui s'appelle le Carillon, qui est un réseau de commerçants solidaires, qui propose des services ou des produits suspendus. Et en fait, le quartier fait partie du réseau. Et Louise, qui est la gérante du quartier, nous accueille une fois par semaine pour un temps de permanence qu'on fait ici, qui s'appelle le Repère. L'idée, c'est d'accueillir les gens, de leur présenter l'association et de passer un moment convivial dans cet endroit qui permet aussi de pouvoir faire des machines en machines suspendues. Donc c'est quand même assez pratique pour des personnes qui sont sans domicile. Donc c'est vraiment un truc qui est une activité, un temps qui a lieu toutes les semaines, tous les mardis de 14h à 16h. Et une fois par mois, on fait ce qu'on appelle les mercredis gourmands, qui sont des journées qui sont sur la thématique de la cuisine. Donc le matin, on va au marché des Halles, on récupère des invendus à la fin du marché. Et ensuite, Louise nous laisse la cuisine et la salle de restaurant et la cuisine du quartier pour qu'on puisse cuisiner et faire un restaurant le soir où on invite des gens. Donc là, autour de la table, on a presque plus d'une vingtaine de convives, je pense, qui sont avec domicile et sans domicile. Il y a aussi, aujourd'hui, on avait invité la Barque à participer avec nous. Donc on a fait cet événement en co-organisation avec la Barque, qui est un café associatif, qui a aussi une fonction d'accueil de jour et qui travaille avec nous sur cette mission de lien social et d'aider des personnes vraiment démunies.
Et alors là, il y a du monde en cuisine. Est-ce que tu veux nous dire, parce qu'on aperçoit les gens, mais du coup, on entend les plats aussi. Est-ce que tu veux nous dire qui sont les personnes qui ont cuisiné tout ça ?
Alors, les personnes qui ont cuisiné, aujourd'hui, on a Chris, qui est une personne qui fréquente la Barque et qui fréquente la cloche, qui est cuisinier, qui a connu des moments de rue et qui, aujourd'hui, fait le chef cuistot de la journée. Donc, c'est lui vraiment qui, exactement comme dans une cuisine, où il y a un chef qui donne un peu des indications. Et ensuite, c'est des personnes qui fréquentent la Barque, qui fréquentent la cloche, qui sont venues nous aider. Donc il y a des personnes qui viennent simplement aux activités, il y a aussi des nouveaux bénévoles qui sont là aujourd'hui. On accueille aussi Assoumani qui est en premier jour de service civique à la cloche. Et donc en fait, toutes les personnes qui ont cuisiné aujourd'hui, ce n'est pas forcément des personnes qui sont des bénévoles avec domicile. L'idée, c'est vraiment de mixer les publics. Donc aujourd'hui, à la cuisine, il y avait à la fois des personnes sans domicile, des personnes avec domicile. On a tous cuisiné ensemble. Il n'y a pas ce côté de faire la cuisine pour des personnes qui n'ont pas à manger. Et donc le repas est exactement sur la même dynamique où on mange tous ensemble sans distinction de niveau social et de catégorie.
Ça, c'est un esprit qu'on retrouve dans toutes les activités de la cloche ?
Tout à fait. Ça fait vraiment partie des valeurs de la cloche. Une des premières valeurs de la cloche, c'est vraiment de travailler sur le lien social et de ne pas faire de distinction entre les catégories de personnes. Qu'une personne sans domicile peut tout à fait devenir un bénévole de la cloche, peut porter des activités, peut porter aussi une parole locale au niveau national de l'association, et ça fait vraiment, enfin, c'est une des valeurs très fortes du projet associatif.
Et alors, si d'aventure parmi nos auditeurs et auditrices il y a des personnes qui disent tiens, moi j'aimerais bien participer aux activités de la cloche, comment on fait ?
Alors, comment on fait ? On peut nous contacter par les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, à La Cloche Centre-Val de Loire, dit CVL, en acronyme sur les réseaux. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 06 62 68 00 79. Et aussi nous envoyer un mail pour qu'on vous rencontre à tour@lacloche.org.
Et alors, si on n'a pas de téléphone, pas d'internet, pour une raison ou une autre, est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller vous trouver en vivant ?
Et alors, nous trouver en vivant, oui, mais il y a peut-être des choses qui vont changer. Peut-être que la chose la plus fixe là pour l'été, ce sera le jeudi soir au Café Fraternité, qui est situé au 35 rue de la Fuie. Vous pouvez venir nous voir. On sera là, présent, physiquement, de 16h à 19h tous les jeudis. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup.
Radio Campus Tours 99.5 FM.
Ça, c'est des pastéis de nata. Doucement. Déguste-le.
RadioCampusTours.com.
C'est bon.
Il est bon, petit flan.
Non, c'est pas un petit flan. C'est un pastel de nata.
RadioCampusTours.com.
De nouveaux étudiants en génie biologique dans cette émission La Méridienne. Et on va avoir le plaisir de parler de compléments alimentaires, je crois, avec Basile et Laurette. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse dérouler votre émission.
Du coup, moi, c'est Basile.
Moi, c'est Laurette.
Étudiant en troisième année de génie biologique, de BUT génie biologique, option parcours, pardon, diététique et nutrition. Donc, futur diététicien. Et aujourd'hui, on va vous parler, pendant ce podcast, de vulgarisation des compléments alimentaires. Alors, tout d'abord, pourquoi ce sujet, pourquoi ça nous intéresse de parler des compléments alimentaires ? En fait, tout simplement, de nos jours, on sait que la population elle est de plus en plus soucieuse de manger bien, d'avoir une alimentation saine et de qualité, afin de garantir une meilleure santé. Mais on sait aussi que parallèlement, les produits alimentaires de grande surface, ils ont tendance à perdre en qualité nutritionnelle. Et ainsi, on observe qu'il y a un intérêt grandissant pour les compléments alimentaires dont les bienfaits sur diverses facettes de la vie sont fréquemment vantés. Entre l'information des médias, des professionnels, des influenceurs aussi et des vendeurs, le consommateur, il fait bien souvent le mauvais choix. Et c'est pour ça que ça nous intéresse de donner des informations fiables par rapport aux compléments alimentaires. Alors d'abord, comment on le définit ? Qu'est-ce qu'un complément alimentaire ?
Selon la Direction européenne et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le complément alimentaire est un produit destiné à complémenter l'alimentation. Ce sont soit des nutriments ou des substances qui ont un effet physiologique spécifique, qui sont manquants ou en quantité insuffisante dans un régime alimentaire. C'est des produits qui ont été fabriqués pour être consommés en petite quantité, contrôlés bien sûr. Et leur rôle n'est pas de substituer l'alimentation normale chez une personne lambda, ou de pallier à une alimentation déséquilibrée. Cependant, quel est le niveau de consommation de ces compléments alimentaires en France ?
Alors, pour appuyer le sujet, on s'est intéressé à la prévalence de la consommation des compléments alimentaires en France. Et pour cela, il y a une étude qui est intéressante, qui est faite par l'ANSES tous les 7 ans, qui s'appelle l'étude INCA, et qui analyse les consommations de divers produits alimentaires chez la population française. La troisième édition de cette étude, qui a été publiée en 2017, en fait, elle a montré que près de 22% des adultes consommaient des compléments alimentaires en France. En plus, depuis l'étude, on sait que le marché des compléments alimentaires, il a encore évolué, il a encore connu un essor, et aujourd'hui, il représente plus de 150 milliards de dollars au niveau mondial. Pour l'exemple, ça correspond à presque deux fois le marché du cinéma au niveau mondial. C'est quand même très important. Et ça, c'est grâce principalement au développement des ventes sur Internet. On peut donc affirmer qu'aujourd'hui, en France, au moins un quart des Français consomment des compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'ils consomment ? Quels sont les compléments consommés majoritairement en France ? Ça va être principalement des vitamines ou des minéraux qui représentent 63% de la consommation. Ensuite, ça va être des compléments à base de plantes ou d'herbes qui, eux, représentent 21% de la consommation. Et ensuite, ça va être des produits naturels comme la gelée royale ou les levures de bière qui, eux, représentent 14% de la consommation. On se demande quels sont les objectifs recherchés par le consommateur, pourquoi il consomme ces compléments.
Les consommateurs français, en prenant ces compléments alimentaires, ils le prennent dans le but de lutter contre la fatigue, de lutter contre les problèmes de santé spécifiques, par exemple chez une personne qui est en surpoids, pour la bonne santé en général, parce que pour eux, en prenant les compléments alimentaires, ça permet de prévenir les pathologies. Dans la pratique sportive aussi, on a vu que les sportifs, ils le prennent souvent parce qu'ils sont à la recherche de la performance, mais également d'autres buts divers comme la beauté, le sommeil, le stress, etc. De plus, les marques et les fabricants répondent aussi volontiers aux envies, aux besoins de la population, En cela, aujourd'hui, sur le marché des compléments, on a des compléments alimentaires à toutes sources pour maigrir, pour la ménopause, pour booster la testostérone, d'autres pour dans le cadre de la grossesse, de la reproduction, contre les pathologies chroniques et également des multivitaminés qui sont pris par les consommateurs. Néanmoins, les compléments alimentaires sont-ils réglementés en France ?
Alors, il faut savoir que depuis 2002 déjà, les compléments alimentaires sont réglementés au niveau européen. Et ensuite, en France, il y a la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui a mis en place une liste autorisée de compléments. C'est-à-dire que si un complément ne fait pas partie de cette liste, il ne va pas être autorisé à la vente en France. Donc ça permet quand même, ces réglementations-là, un environnement un peu plus sécuritaire quant à la vente des compléments. De quoi les compléments alimentaires sont-ils composés maintenant ? Alors en fait, ça va être principalement des composants nutritionnels d'abord, et ensuite des constituants fonctionnels. Alors qu'est-ce qu'on appelle un composant nutritionnel ? En fait, c'est les nutriments, tout simplement. Ça va être des macronutriments, des protéines par exemple, des lipides comme les oméga-3, ou des micronutriments comme les minéraux et les vitamines. Et qu'est-ce qu'on appelle un composant fonctionnel ? En fait, ça va être tous les autres constituants qu'il peut y avoir dans les compléments. Par exemple, des ingrédients d'origine animale comme la gelée royale ou le cartilage de requin. Des ingrédients d'origine végétale comme le ginseng, le tilleul, le gingembre. Des additifs et des arômes aussi qu'on retrouve bien souvent dans les compléments. Et aussi des substances un peu en vogue, ce qu'on appelle les substances innovantes, dans lesquelles on va retrouver les probiotiques par exemple, des ferments lactiques qui sont là pour renforcer la flore intestinale. Alors maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans les compléments et la prévalence de leur consommation, comment les compléments sont-ils distribués auprès de la population et comment se fait la promotion aussi de ces compléments auprès de la population ?
Les compléments alimentaires sont vendus en pharmacie, dans les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés en produits de diététique, mais également beaucoup sur Internet. Vu que c'est un marché international, leur vente ne nécessite pas forcément les mêmes autorisations les autorisations mises en place en France. Ainsi, donc, n'importe qui peut aller sur Internet et prendre n'importe quel complément alimentaire, même si ce complément alimentaire n'est pas autorisé par la DGCCRF. De plus, les lois quant aux allégations ne sont toujours pas respectées par les industries. Souvent, on a des thèmes mensongers, des dissimulations, mais également des absences de mentions obligatoires qui n'informent pas réellement le consommateur sur réellement ce qu'il prend. On trouve également des publicités mensongères sur les médias. Aujourd'hui, on a des influenceurs qui font la promotion de ces compléments alimentaires et ils n'expliquent pas aux consommateurs les risques qu'ils courent en les prenant. Par exemple, nous, à l'UT, on avait eu une entreprise spécialisée dans la vente des compléments alimentaires qui sont venus nous faire la distribution des flyers. Et leur mot de vente, c'est un complément acheté égal à un cadeau offert. Donc, tout ça incite la population à aller vers ces produits.
Alors maintenant, comment on distingue les compléments alimentaires entre eux et comment ils sont classifiés en fait ?
On distingue aujourd'hui plusieurs types de compléments alimentaires. Il y a des compléments alimentaires dits diététiques. Ça sera notamment les vitamines et les minéraux qu'on trouve à forte prévalence dans la population. Les compléments alimentaires pour le sportif, mais également des compléments alimentaires divers, dits pour la beauté, le bien-être, etc. Cependant, les plus vulgarisés et ceux qui connaissent un essor très important, ce sont les compléments sportifs qu'on détaillera un peu plus tard. Alors, ces compléments alimentaires ont-ils des intérêts réels ?
Alors, on rentre là un peu dans le vif du sujet. On se demande, est-ce que ça a vraiment un intérêt d'en consommer des compléments alimentaires ? Alors, il faut distinguer déjà leur utilisation dans la population générale, une population lambda, qui est bien portante, qui n'a pas de pathologie chronique, et leur utilisation dans des populations spécifiques. Pour savoir si c'est un intérêt dans la population générale, on s'est intéressé à une revue systématique qui date de 2021, dans laquelle en fait, sont regroupées différentes études et recherches qui traitent des effets des différents compléments sur l'organisme, sur la perte de poids, sur l'apparition et la prévention de maladies spécifiques. Par exemple, il y avait l'effet de la complémentation en oméga-3 sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Et là, ça a montré qu'en fait, cette complémentation n'avait aucun intérêt pour prévenir ces maladies. Ensuite, il y avait une grosse partie aussi sur la complémentation et, l'effet des compléments sur l'apparition du cancer. Cancer colorecto, cancer des poumons, cancer de la prostate, par la supplémentation en vitamine E, vitamine A, vitamine C, différents minéraux comme le sélénium, le zinc. Et en fait, malgré la théorie qui peut paraître pertinente, puisque par exemple la vitamine C, on sait que ça joue un rôle dans les défenses immunitaires, donc on pourrait se dire que consommer, se complémenter en vitamine C, ça pourrait jouer un rôle positif face à la prévention des cancers, mais en fait, on voit que les résultats ne sont pas du tout concluants, et les effets des compléments sont même des fois néfastes, puisque ça va interagir avec les traitements des cancers. Donc là, vraiment, il n'y a aucun intérêt de la complémentation en divers nutriments pour prévenir des cancers. Ensuite, il y avait aussi une autre partie sur l'effet des compléments sur la perte de poids, et là, les résultats étaient aussi marginaux, voire même inexistants. Donc au final, la revue elle a conclu que les compléments alimentaires ne devraient pas être utilisés pour le maintien de la bonne santé et la réduction des risques des maladies chez la population générale, mais ils devraient être utilisés par des personnes atteintes de carences prolongées ou des personnes à risque de carence ou des personnes atteintes de pathologie. L'accent dans la population générale il doit plutôt être mis sur les changements dans l'alimentation, avec le choix d'aliments de meilleure qualité nutritionnelle, dans lesquels se trouvent en fait déjà naturellement les vitamines, les minéraux qu'on cherche des fois à complémenter. Et même dans ces aliments, il va se trouver des composants, des nutriments qui ne peuvent même pas être appliqués dans les compléments alimentaires. Donc ça, c'était pour la population générale, on voit qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais chez certaines populations spécifiques, dans certaines situations, ça peut faire sens. Par exemple, on peut citer les personnes âgées qui ont besoin de calcium et de vitamine D, les populations en situation de grande précarité qui sont souvent en risque de carence, les personnes malades, en fait, aussi, tout simplement, puisqu'elles vont être prescrites des compléments à l'hôpital, ou même les sportifs. Alors, justement, on s'est intéressé à la population spécifique des sportifs et quels sont les intérêts de la complémentation dans cette population.
Notons que l'intérêt recherché par ces derniers, ce n'est pas une meilleure santé en général, mais plutôt c'est la recherche de la performance, de l'esthétique, en lien avec leur pratique sportive. Selon une étude publiée en 2019 auquel on s'est intéressé, l'étude a révélé que près de la moitié des athlètes enquêtés consommaient des compléments alimentaires. Dans cette population spécifique, on a vu qu'il y a plusieurs types de compléments alimentaires. Il y a certains qui prennent et qui présentent des risques majeurs sur leur santé. Il y a d'autres qui présentent des dangers, mais n'ont pas d'intérêt scientifiquement, ne présentent pas de danger et n'ont pas d'intérêt scientifiquement prouvé. Mais il y en a également qui ont une efficacité prouvée et qui sont sans danger pour la santé dans cette catégorie de population.
Alors, premièrement, pour ce qui est des compléments qui ont quand même un effet prouvé et qui ont du coup un intérêt, il y en a plusieurs. Et on peut par exemple citer la créatine, qui permet d'améliorer alors légèrement la performance lors d'efforts intenses et de courte durée, par exemple un sprint ou une série au développé couché. Et parallèlement, il y a aussi un effet de favoriser légèrement la prise de masse musculaire par divers mécanismes physiologiques. Et tout ça, ça a été prouvé par maintes et maintes études, puisque c'est un des compléments qui est le plus recherché et étudié. La deuxième catégorie, c'est les compléments qui n'ont pas d'effet prouvé scientifiquement, mais qui n'ont pas non plus de danger. Parmi ceux-là, on peut citer les BCAA ou acides aminés ramifiés, qui sont assez connus dans le monde du sport, qui sont très populaires pour, par exemple, une meilleure récupération, une prise de masse musculaire ou une meilleure performance. Mais en fait, en réalité, ces acides aminés, ils sont déjà contenus dans les protéines de l'alimentation normale, et même aussi dans les protéines de la complémentation qu'on peut prendre sous forme de poudre. Donc en fait, ça n'a vraiment aucun intérêt de se complémenter en acides aminés ramifiés. Ça a été même prouvé par l'Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé. Et ensuite, la troisième catégorie, elle correspond aux compléments qui présentent un danger majeur sur la santé.
Ces compléments, il s'agit des compléments qui entraînent des effets secondaires indésirables sur la santé des sportifs. Et heureusement que grâce aux réglementations mises en place par la DGCCRF, il est difficile, voire impossible, d'acheter ce genre de produits. Mais comme je le disais tantôt, il y a l'Internet qui est un marché international et tout ne peut pas être contrôlé. Donc on peut retrouver ces compléments alimentaires chez les sportifs. Dans cette catégorie de compléments, on a les prohormones par exemple, qui sont des substances artificielles qui permettent en théorie d'augmenter la sécrétion hormonale comme la testostérone. En consommant ce genre de compléments, les sportifs, souvent, ils prennent le risque de voir survenir des maladies cardiovasculaires. Cela a été même publié dans une étude de l'ANSES où cette pathologie a été révélée. Des dérèglements hormonaux, une stérilité, des troubles psychologiques, mais également des atteintes cutanées à noter chez les sportifs plutôt. De plus, pour les athlètes, ils prennent souvent le risque de passer positif au contrôle antidopage car des traces de produits dopants peuvent se retrouver dans les compléments interdits.
Plus généralement, quel risque court-on quand on consomme des compléments alimentaires de manière injustifiée ?
Le risque qu'on court quand on prend les compléments alimentaires de façon injustifiée, c'est le risque des surdosages. Qui présentent des conséquences sur la santé. Principalement, nous avons des atteintes cardiovasculaires chez ceux qui souvent prennent la caféine ou des substances stimulantes, des atteintes hépatiques en cas de surdose de la vitamine B3 ou du cuivre, des atteintes néphrologiques en cas de surdose en zinc, des atteintes neurologiques en cas de consommation excessive, en vitamine B9 ou en vitamine B6, mais également des atteintes dermatologiques. Ça sera uniquement chez les personnes qui utilisent souvent des huiles essentielles. Cela provoque souvent des réactions allergiques. Au vu de tout ça, nous, en tant que futurs diététiciens, nous recommandons à la population de toujours prendre contact avec un professionnel de santé avant de prendre la décision de consommer les compléments alimentaires et où, en cas de survenir des effets indésirables, s'ils en prennent déjà, de consulter le médecin général et le médecin pour être pris en charge. De toujours s'assurer de la bonne source de ces produits, parce qu'on sait que le marché international ne respecte pas souvent les normes mises en place par la DGCCRF. Et pour finir, de toujours respecter les conditions d'emploi fixées par le fabricant, c'est-à-dire respecter la dose maximale fixée par le fabricant. De tout ce qu'on a dit, que retient-on finalement de notre présentation ?
Alors, on peut déjà dire qu'il faut plus de recherches et d'études sur les effets de la supplémentation, plus particulièrement par rapport à la prévention des maladies. Mais en tout cas, au vu des intérêts inexistants, et pour la population lambda, et même des risques aussi, il n'est pas du tout conseillé aujourd'hui d'en consommer, mais plutôt de faire des meilleurs choix dans son alimentation en général. Et dans tous les cas, même si on en prend au final, on le répète, hein, mais il faut toujours s'informer au préalable et en se référant à une personne qualifiée, pour être sûr que l'utilisation des compléments est justifiée dans notre cas particulier. Merci à tous de votre écoute. Si ça vous a intéressé, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter le site de l'ANSES, le site de la Haute Autorité de Santé ou le site du ministère de la Santé, où vous retrouverez plus d'informations sur les compléments alimentaires.
Merci.
Merci à vous, Basile et Laurette, d'être venus nous donner toutes ces informations sur les compléments alimentaires. Donc, on a bien compris que si on voulait se transformer en Superman, ça, il ne suffisait pas de prendre quelques pilules pour y arriver. Et alors, par curiosité, où est-ce que vous allez exercer ? Où est-ce que vous serez diététicien ou diététicienne ?
Moi, Moi, je pense que je vais poursuivre mes études. Comme je le disais, au professeur, je pense faire, faire plutôt un master en santé publique pour pouvoir avoir plus de connaissances que ce que j'ai déjà.
Moi, je vais plutôt essayer d'exercer du coup dans le milieu du sport. Donc ça reflète un peu ces informations sur les compléments alimentaires. Donc faire un diplôme de coach et puis ensuite peut-être travailler dans des salles en alliant le côté sportif et le côté un peu nutrition.
Eh bien, merci à vous deux.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ici Claude Askolovitch, celui qui jongle avec les mots. Vous écoutez Radio Campus Tour, le 99.5 FM.
Et sur notre site, radiocampustour.com.
Oh, quelle est belle cette radio! Oh, qu'il est beau ce micro!
Radio Campus Tour.
Une radio dont on dit qu'elle serait écoutée par les étudiants et les étudiantes.
Sur 99.5. 99.5. 99.5.
Ça, on met une petite table pour les bénéficiaires, le temps d'attente en fait pour passer, pour qu'ils prennent les denrées alimentaires. Donc bah on met à disposition une petite table avec du thé ou du café et puis bah de quoi grignoter. Et puis voilà. Donc par exemple là lundi prochain, enfin le mardi 8 décembre, on a prévu une distribution. Donc, il y a le camion de la banque alimentaire qui arrive. Il prend tout ça. Et puis, il décharge les cartons pleins avec les denrées alimentaires. Donc, juste ici, c'est là on distribue les denrées alimentaires en question. En fait, là, quand il y a des rayons ici, il y a toujours des bénévoles qui se mettent là. Et puis, bah, le bénéficiaire, quand il rentre là, il prend par exemple ici, on a l'habitude de mettre du café puis des pâtes. Ici, on a l'habitude de mettre tout ce qui conserve des légumes et puis de viande aussi. Et puis là, on met tout ce qui est du thon, des sardines et puis des boîtes de confiture par exemple, ou des œufs ou de l'huile. On a quasiment tout type de denrées alimentaires. Et puis bah on stocke le lait là-bas, on distribue au fur et à mesure à tous les étudiants. Et puis bah là je consacre les deux tables ici en fait pour une petite association qui vient en aide. En fait, c'est une association de Yolen, on appelle ça association de Yolen pour les fruits et légumes. En fait, ils nous donnent des fruits et des légumes. Ben, je demande toujours à ce que deux étudiants se mettent ici pour distribuer aussi fruits et légumes. Et puis, voilà.
Oui, alors je me présente. Je m'appelle Mohamed Touffé. Je suis étudiant au Master 2 spécialité finance et contrôle gestion. C'est ma dernière année. Je suis secrétaire de l'association. Je suis bénévole depuis 2017. Alors, je tiens déjà à vous remercier pour votre présence, pour l'intérêt que vous nous portez. En fait, la précarité touche précisément les étudiants étrangers. Et moi, j'ai passé par là. Je suis étudiant étranger depuis 2017, parce que j'avais déjà entamé mes études au Maroc, après je suis venu ici. Alors, j'ai vraiment vécu le choc, soit culturel. Au début, j'avais pas de ressources, j'avais pas de travail. Du coup, vraiment, j'ai vécu un petit peu la précarité étudiante. C'est pour ça que je me suis dit, parce que j'étais bénéficiaire des Haldor Rabelais pendant 3 mois. Après, je me suis dit, parce qu'ils avaient déjà besoin de bénévoles, j'ai pris l'initiative et c'est pour ça. Manger, on n'a pas atteint ce degré-là de ne pas avoir mangé. Mais déjà, quand je suis venu ici, déjà, je n'avais pas d'hébergement. J'avais pas de réservation à l'hôtel. Je trouvais pas où dormir déjà. Je suis descendu à l'aéroport, je suis allé voir le CROUS. J'avais pas rempli les formalités administratives. Du coup, ils m'ont donné vraiment une chambre, mais j'étais dans un mois. Du coup, ce mois-là, il faut que je me débrouille tout seul. Du coup, j'ai trouvé un camarade de classe qui m'a hébergé pendant 20 jours. Ces 20 jours-là, je vais pas mentir, j'avais un petit peu d'argent de poche. Du coup, quand même, j'arrivais à me débrouiller un petit peu. Surtout, je vais pas dire, j'accomplis tous mes besoins, mais surtout les besoins psychologiques, les besoins, comme vous avez dit, de manger, de sortir, de m'habiller un petit peu. Je vis pas le luxe, ni à l'époque, ni maintenant, mais je trouvais quand même quoi manger et la personne qui m'a hébergé, que je tiens à remercier, c'était Omar Dakik. Du coup, maintenant, il est étudiant à Lille. Du coup, le premier mois, ça va, ça s'est passé. J'ai eu ma chambre ici à Gramont. C'est pour ça, en fait, j'étais un petit peu prêt à l'association. J'étais bénéficiaire, comme j'ai dit, pendant 2-3 mois. Après, ils avaient besoin. Et moi, j'avais vraiment envie parce que j'ai galéré un petit peu. C'est pour ça, en fait, quand je vois les étudiants qui ont arrivé cette année, déjà, à mon époque, il n'y avait pas de Covid. Du coup, ça va, au mois de décembre, j'avais trouvé un travail. Je me débrouillais bien quand même. Un petit travail, juste histoire de payer le loyer, de payer des besoins de première nécessité. Du coup, quand je vois les étudiants en train de galérer, il n'y a pas de travail. Au niveau de logement, ça va. Le CROUS, ça va. Ils sont accueillants, même au niveau de démarche administrative. C'est mon histoire.
Alors, mais qu'est-ce qu'on mange quand on n'a pas de sous et qu'on est étudiant?
Alors, alors le plat préféré des Français, c'est les pâtes. Ce sont les moins chers. Je vais pas mentir. Les pâtes, le riz. Les pâtes, le riz. Comme j'ai dit, c'est un petit peu le choc culturel parce que nous, au Maroc, on n'est pas habitué à tout ça.
On essaie de faire des courses à petit prix, en fait.
Voilà, on n'est pas habitué à tout ça. On n'avait pas de contraintes budgétaires. Du coup. Et même au niveau d'habitude alimentaire et tout ça, il y avait un petit choc quand même. Mais bon, on arrivait quand même, comme j'ai dit, il y a le riz, les pâtes, les plats qui ont une valeur nutritionnelle et à petit prix. Parce qu'en fait, quand tu viens ici, tu as toujours dans la tête, dans ton cerveau, le dirham marocain. Du coup, par exemple, quand tu vas par exemple au supermarché, tu vois par exemple, le moins cher, par exemple, on parle des tomates, le moins cher par exemple à 1 euro, tu le convertis directement au dirham, tu as 10 dirhams. Là-bas, avec 10 dirhams, avec 1 euro, tu achètes 5-6 kilos de tomates. Du coup, tu vois la différence. Surtout quand tu ne travailles pas, tu vois la différence. Mais après, avec le temps, tu t'habitues, et après, ça devient le moins cher. Voilà.
Au niveau des logements, etc. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés dans ton parcours ou c'était OK? Est-ce que tu as eu du mal à payer des factures d'énergie? Est-ce que tu as eu le froid en Touraine et l'humidité? Est-ce que ça a été quelque chose de problématique pour toi?
Alors, moi, en fait, je suis logé ici au CROUS. Au CROUS, c'est des chambres, c'est des charges incluses. En fait, soit au niveau de l'électricité, au niveau du chauffage, ils sont isolés, ils sont rénovés. Alors, tout problème d'énergie, pour moi, ça n'existe pas. Ici, quand je parle ici de CROUS, quand je sors de CROUS, par exemple, le premier mois que je suis venu ici, j'ai dormi par terre sur des cartons. Du coup, on parle un petit peu de froid. Mais bon, quand on parle de la situation actuelle, ça va et je ne trouve pas de problème d'énergie parce que toutes les charges sont incluses et le loyer que tu peux payer facilement ton loyer, on va pas mentir. Après, avec les aides de CAF et tout ça, on arrive à s'en sortir quand même.
Voilà, bonjour, je me présente, je m'appelle Hamza, je suis étudiant à l'université de Tours, je suis inscrit en L3 droit privé au titre de l'année 2020-2021. Je suis également président au sein de l'association Les Halles de Rabelais depuis le début de cette année. En fait, je mets le point sur ce qu'il a dit Mohamed par rapport à la question qu'a posée Cédric. En fait, c'était par rapport à l'énergie. En fait, nous, on ne peut pas savoir l'énergie en fait, dont on a besoin en fait, quand on est logé au CROUS. Par exemple, moi, depuis 2017, que j'étais au CROUS, donc j'ai vécu 3 ans au CROUS, on paye pas de charges, toutes les charges sont comprises, on voit pas en fait l'intérêt du chauffage. Donc c'est le moment où je suis sorti du CROUS et j'ai pris un petit appart, comme la plupart des étudiants français. Donc à ce moment-là, je me suis rendu compte que, par exemple, en contactant l'EDF, il m'a proposé des tarifs qui sont vraiment, on va dire, flagrants, parce qu'en fait, il m'a proposé 75 euros. Alors que 75 euros, si vous voulez, c'est le prix que je payais pendant toutes les 3 années en étant étudiant salarié. Ça veut dire, quand on dit étudiant salarié, ça veut dire que je travaille à temps partiel, des petits jobs étudiants. Donc, en question d'énergie, je ne vois pas vraiment quand on en a besoin, en fait, en étant résident au CROUS. Moi, quand je suis sorti pour chercher un appart, j'ai fait, comme peut-être partout, tous les étudiants le font. Ils cherchent un appart, ça veut dire qu'ils prévoient des prix qui sont un peu plus chers que CROUS. C'est bien. Mais par contre, comme je vous ai dit, pour l'EDF, c'était vraiment très cher. Ouais, c'était très cher. Donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du terme énergie. Donc pour me réchauffer, il fallait que je paye. Par contre, comparativement au CROUS, on ne paye pas. Donc on paye, pour 9 mètres carrés, on paye 224 euros. Avec les aides de la CAF, en fait, pour les étudiants qui travaillent, c'est ça en fait, pour les étudiants qui travaillent, ils reçoivent beaucoup d'allocations, un prix plus élevé que les autres qui travaillent pas en fait. Donc c'était mon cas, je suis tombé sur une dame qui m'a pas beaucoup expliqué en fait. Elle m'a dit, la locataire, parce que moi je connaissais la locataire qui était avant moi, c'est elle, on va dire, qui m'a cédé l'appart. Elle m'a dit moi je payais que 19 euros, alors que d'après ce qu'elle m'a dit, la conseillère, elle habitait dans l'appart là où je suis maintenant, il habitait pendant la période estivale. Donc, logiquement, elle n'utilise pas de chauffage. Donc, je lui dis, tant que je n'ai pas prévu, en fait, assez de charges pour la facture de l'EDF, je lui dis, on peut partir sur sans chauffage. Voilà, donc on peut partir sur la même facture de 19 euros ou 25 euros, mais vous ne mettez pas de chauffage. Elle m'a dit, par contre, si vous mettez de chauffage, ça risque d'être une grosse facture.
Voilà. Donc hiver sans chauffage.
Voilà, hiver sans chauffage. Tout à fait.
Comment survit à ça alors ?
Alors, moi franchement, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas vécu cette expérience. Hiver sans chauffage, heureusement que je ne l'ai pas vécu. Ce n'est pas mon cas. Franchement, je laisse Hamza qui va découvrir ça cet hiver.
Donc
le meilleur est à venir.
Mais je comprends. Hiver sans chauffage, d'où votre présence déjà. Donc, c'est pour nous soutenir en fait et pour nous expliquer s'il y a des astuces ou des techniques pour pouvoir se réchauffer.
Tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé, toi, bénévole, ici ?
Voilà. Comment je me suis retrouvé bénévole ici, c'était le même chemin que Mohamed. On est arrivés tous les deux ici en 2017. On est tous les deux étudiants d'origine marocaine, sauf qu'on ne se connaissait pas avant. On s'est connus ici. On s'est connus. On a commencé ici en tant que bénéficiaire, comme il a dit tout à l'heure. Quand on arrive ici, peu de ressources, pas de travail, pas de bourse, parce qu'en fait, les étudiants étrangers, sauf ceux qui sont vraiment excellents, qui ont des bourses. Donc nous, on n'était pas qualifiés vraiment au premier rang d'excellence. Donc ça, il faut le dire, avec tout on était. Donc après, on arrive ici, on entend, bouche à oreille, on entend qu'il y a une association qui s'appelle les Halles de Rabelais, qui est sur le campus de Grandmont. Nous, on était juste à côté. Donc il y a plein de bâtiments ici. Presque 8 bâtiments, chaque bâtiment il a 250 étudiants. Donc on entend parler d'une association Les Halles de Rabelais qui distribue des denrées alimentaires pour pouvoir sauver les étudiants, on va dire. En fait, ça peut dépanner, mais pas vraiment à long terme. Donc nous, on a compris le truc, on s'est dit, tiens, on va bénéficier cette fois-ci pendant 2-3 mois voire une année, après on va se débrouiller. Et justement, c'était le cas. Donc on a commencé à être bénéficiaire depuis septembre 2017 jusqu'au fin d'année, c'était juin 2018. Après, à partir du mois de juin 2018, on n'est plus bénéficiaire. Donc on a commencé, enfin on a compris le truc ici en France, comment ça se passe, parce que les étudiants, quand on regarde, les étudiants ont des voitures là maintenant, les étudiants ont un appart, l'étudiant est autonome, il peut décider, il est vraiment indépendant de ses parents, c'est pas le cas au Maroc. Donc les étudiants sont toujours pris en charge. Je reviens toujours au Maroc parce que c'est vraiment à titre comparatif en fait. C'est les étudiants au Maroc sont toujours pris en charge, vraiment jusqu'à 28 ans voire 30 ans, par les parents qui n'ont pas beaucoup de ressources. Mais en fait je reviens sur le sujet. Après début de l'année 2018-2019, on a commencé à être bénévole parce que l'étudiante qui était bénévole. Enfin, qu'on a connu en tant que bénéficiaire, et nous a proposé d'être bénévole. On n'a pas refusé, on a accepté ça avec plaisir, parce que en fait, ça peut servir les étudiants qui sont comme nous. Et puis, on a accepté cette idée. On est parti en tant que bénévole. Et l'année d'après, un de notre équipe, en fait, qu'on était trois amis, il s'est proposé d'être président. Donc, il a été élu président. Il est plus étudiant, donc il a été président l'année dernière, et là cette année il est plus étudiant. Comme moi je suis toujours étudiant en droit, parce qu'on n'avait pas le même parcours, eux ils sont arrivés ici avec une licence, moi je suis pas arrivé avec une licence, j'ai commencé en L1 droit. Moi je suis élu président pour cette année, donc voici le chemin. En fait on a commencé bénéficiaire, et là cette année au bout de 4 ans moi je suis président.
Est-ce que c'est la honte de ne pas avoir de sous ou d'avoir faim ?
Pas du tout, ce n'est pas une honte. Parce que, en fait, c'est la vie étudiante, on peut le résumer dans 5 ans, 6 ans. Après, tu vas entamer ta carrière professionnelle. Alors, ce n'est pas une honte parce que c'est une période qui va passer. Et c'est tout. Après, tu vas t'en rappeler de ces années-là. Après, tu vas juste rigoler parce que tu n'avais pas de sous, mais maintenant... Dans le futur, tu auras ton travail pour lequel tu as galéré, tu as passé on peut dire, des années sans vraiment des ressources. Parce que nous, par exemple, juste, Hamza il a parlé des aides, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres contraintes en fait. Parce que nous, les étudiants étrangers, même si on travaille, par exemple, moi je travaille maintenant 2 ans, 3 ans des jobs à temps partiel, on n'a pas le droit au chômage. Même si tu cumules des heures, tu n'as pas le droit au chômage. Par exemple, avec le Covid, si je ne trouve pas de travail, je n'ai pas de ressources. Du coup, je retourne toujours à l'étape zéro. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, oui, il y a toujours des problématiques. Mais comme j'ai dit, c'est une période qu'on va passer après. Mais il y a, en fait, comme on a expliqué à la commission SVEC à la fac, à l'université de Tours, il y a franchement une demande qui augmente de chaque distribution. Parce qu'en fait... Comment on s'organise ? En fait, on donne aux étudiants, tous les étudiants, ils ont 2 paniers d'urgence. C'est-à-dire, sans ramener un justificatif de besoin. Après, les 2 paniers d'urgence, en fait, ils sont obligés d'aller voir les assistantes sociales. C'est eux, en fait, qui évaluent leurs besoins. S'ils sont vraiment dans le besoin ou pas. Alors déjà, nous, par exemple, la première distribution, on a servi combien ? On a servi 150, 148, plutôt, 148. La deuxième distribution, on avait déjà les 148 et on trouve 30 ou 40 qui viennent. Du coup, après, oui, il y a toujours une demande, surtout avec le Covid. Il y a une demande et nous, on ne peut pas satisfaire tout ça. Parce qu'en fait, au niveau de denrées alimentaires, il n'y a que la banque alimentaire qui nous donne des denrées. Ce n'est pas qu'ils nous donnent, mais on paye. Mais on paye pas la totalité à 100%. Voilà, c'est symbolique. C'est ça, c'est un vrai problème quoi.
Alors, comment vous faites avec les étudiants s'il y a trop de monde en fait, comment vous gérez en fait le trop de monde ? Est-ce que vous vous orientez vers d'autres institutions ou d'autres aides d'urgence ?
Voilà, effectivement.
Bonjour.
Voilà, effectivement, en fait, si on reçoit beaucoup de monde, on ne l'a pas encore appliqué parce que, en fait, déjà dans le règlement, ils ont tous les étudiants, ils ont 2 paniers d'urgence. Alors, normalement, à partir du 3e panier d'urgence, à partir de la 3e distribution, en fait, s'ils ramènent, s'ils apportent un justificatif comme quoi ils sont dans le besoin, on les accepte, on les accueille. Sinon, on les redirige vers des associations comme il a dit Hamza Temilia, comme on a par exemple les Restos du Cœur qui aident un jour par semaine les étudiants. Voilà, nous, on ne peut pas recevoir tout le monde.
Donc voilà, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est la Banque alimentaire, en fait, qui nous donne, enfin, qui nous fait un enlèvement chaque premier mardi du mois. Donc nous, on fait ça dans les deux chambres. On a une chambre de stockage. On paye un forfait de 3 500, voire 4 000 euros par an. En fait, et à chaque mois, ils nous donnent 4... Non, pas 4, 3 tonnes. 3 tonnes, en fait, de denrées alimentaires. Donc, on stocke ça, on répartit tous les produits alimentaires, on les répartit pour les distribuer par 2 quinzaines, en fait, le premier mardi du mois et le dernier mardi du mois. Non, et le troisième mardi du mois, pardon. Donc, ce qu'on fait dans notre première activité, c'est qu'on donne 2 paniers d'urgence à tous les étudiants, qu'ils soient en précarité ou pas. Et en fait, on leur demande au fil du temps, on leur demande à partir de la troisième distribution qu'ils prennent contact avec l'assistante sociale. Et c'est celle-ci qui va évaluer leur situation sociale pour dire est-ce que vraiment, pour estimer leur précarité. Par exemple, on a des étudiants qui sont entre parenthèses profiteurs. Ils se sentent pas vraiment en précarité. Et du moment où ils partent voir l'assistante sociale, à celle-ci, elle leur demande de lui envoyer les relevés bancaires. À ce moment-là, tout le monde s'abstient à le faire et tout le monde renonce à l'affaire.
Voilà, mais bon, comme il a dit, en fait, juste pour répondre à la question, s'il y a vraiment une demande croissante, cette rentrée, oui. Par exemple, normalement, comme il a dit Hamza, on a un enlèvement par mois. On partage, on divise sur 2, pour 2 distributions par exemple, pour 2 distributions par mois. Mais cette année, c'est exceptionnel. Pour la première distribution, on a utilisé toutes les denrées que la Banque alimentaire nous a données. Du coup, là, pour la deuxième distribution, on ne trouve rien à donner. C'est pour ça, après, on a trouvé des solutions, mais c'était juste provisoire. On a sollicité la Banque alimentaire pour qu'il nous donne plus de denrées, mais c'était exceptionnel. C'était hors forfait, mais c'était exceptionnel. Parce que normalement, les années précédentes, bah, on recevait entre 80 et 100 par distribution. Du coup, là, on était surpris. On a un petit peu accueilli 150 étudiants la première distribution.
On est arrivé à 206 étudiants. 206. Voilà. En fait, quand je vous dis ce chiffre-là de 206 étudiants qui sont enregistrés dans notre ordi, en fait.
Voilà.
Donc, ces étudiants-là, pas forcément sont en précarité parce qu'ils ne sont pas encore évalués par l'assistance sociale. Non. Et l'assistance sociale, en fait, pour dégager un peu de responsabilité, pour qu'ils se sentent un peu à l'aise, elle nous demande, voire elle nous exige d'orienter les étudiants vers d'autres associations qui proposent la même chose que nous.
Parce qu'après, il faut le dire, même les assistantes sociales, elles n'ont pas en fait la capacité d'accueillir tous les étudiants. Parce que, par exemple, quand on parle de 200 étudiants, ils sont 2. Ils sont 2, par exemple, les assistantes d'Université de Tours. Ils ne peuvent pas accueillir tous les étudiants. Parce que, par exemple, si on a 200, par exemple, comme il nous a dit, ils ont 6 créneaux par jour. Six rendez-vous par jour. 6 fois 5, ça fait 30. Bah, 30, et il faut des mois et des mois pour traiter toutes les demandes. Ouais. Du coup, nous, on est obligés quand même de les accueillir. Même s'ils ne fournissent pas le justificatif comme quoi ils sont dans le besoin, on est obligés. Voilà, parce que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de la faute non plus des assistants sociaux.
En fait.
Mais c'est le système, il est comme ça. On est obligés de les accueillir. Mais après, comme il a dit qu'avec au fil du temps, normalement, ouais. ce nombre-là il se stabilise vers les 100 comme ça.
Ouais. Alors, je vois qu'il y a une jeune femme qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Andresa. J'ai 20 ans. Je fais L2 en psychologie à l'Université de Tours. Je suis brésilienne. Hamza, il m'a invité à participer, c'est le 27-28, pour participer d'une action bénévole ici. Du coup, je vais aider, mais je viens de connaître l'association, en fait, j'ai connu par Facebook. Et parce que je suis déjà allée au Reste du Cœur, par exemple, et je voulais connaître d'autres associations aussi. Oui, avec la crise du Brésil, maintenant, avec cette crise sanitaire, notre monnaie, le réel brésilien, il est beaucoup, 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 dévalorisé en comparaison au euro. Donc, quand je paie en euros, par exemple, c'est comme si je payais 6 euros. Du coup, c'est compliqué, je fais vraiment une aventure cette année. mes parents m'aident comme ils peuvent. mais c'est pas vraiment suffisant. Donc il faut que à partir de l'année prochaine, je trouve un travail, quelque chose pour m'aider parce que c'est pas suffisant. Je suis au CROUS, oui, je suis au CROUS parce que c'est l'option moins chère et c'est aussi parce que j'ai choisi des villes en France. Par exemple, je pouvais jamais choisir Paris. C'est trop cher pour moi, vraiment trop cher. Une chose, par exemple, que je ne peux pas faire encore, c'est un forfait Internet. Je dépends des Wi-Fi public, des Wi-Fi du CROUS, parce que je ne peux pas. Un forfait genre 15 euros, c'est déjà cher pour moi. Ouais, du coup, il y a cette difficulté aussi au niveau connexion. Au niveau, si tout est plus cher ici, vraiment tout est plus cher, donc c'est d'une escale globale, générale. Je fais un calcul mental ici, genre dans les meilleurs mois, 300 euros. Ouais. Ouais. Du coup, et de 300, parfois 300 quelque chose, et mais la chambre au CROUS, c'est déjà 255. Et ça reste pas beaucoup pour faire quelque chose.
50 euros ou 45 euros. 45 euros pour le transport, déjà ça part 27 euros. Et puis bah, il y reste 10 euros. 10 euros, ce qui c'est peur pour s'habiller ou pour acheter des produits d'hygiène pour elle ou pour faire un abonnement téléphonique ou pour l'argent de poche. Voilà. Donc.
Est-ce que justement vous avez imaginé travailler aussi peut-être sur les produits d'hygiène? Est-ce que vous avez des pistes pour faire des récupérations, etc., par rapport à ces produits-là?
Oui, en fait, on a une association en partenariat qui s'appelle Entraide IAE, qui est sur de Lyon. En fait, eux, ils contactent de leur part pas mal d'entreprises qui pourraient nous aider en fait à nous fournir des produits d'hygiène et de produits sanitaires.
Il y aura même une action qui sera mise en place par la Banque alimentaire. En fait, c'est un budget d'État en fait donné à la Banque alimentaire qui va en fait le distribuer sur quatre associations. Et nous, on était choisis par la Banque alimentaire pour nous donner des produits d'hygiène.
Ouais. Il y a également un point, je ne sais pas si ça vous dit, la précarité menstruelle.
Bien sûr.
Donc c'est à destination des femmes, c'est pour en fait pour leur aider en fait à acheter les, vous savez, les serviettes.